Vous écoutez
RMC.
Mercredi 1er juillet,
l'info sur RMC.
Il est 8h02, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Frontières, ouvre-toi. À partir d'aujourd'hui, l'Union européenne accepte à nouveau les voyageurs en provenance de 15 pays. Liste restreinte, catastrophique pour la Côte d'Azur notamment, qui se voit privée d'une grande partie de ses touristes étrangers. Airbus tente d'amortir la crise du coronavirus en supprimant 15 000 postes, 5 000 en France. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports, sera sur RMC BFM TV à 8h30. Et puis c'est une information RMC, 55 millions d'euros supplémentaires débloqués pour l'aide alimentaire en France. Bienvenue sur RMC. L'Europe rouvre donc ses frontières à partir d'aujourd'hui, mais attention, encore faut-il faire partie de la liste, une liste précise validée par les 27 et qui prend en compte évidemment la situation épidémique de chaque pays. Les États-Unis par exemple, où près de 1200 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, les États-Unis sont interdites. Les conséquences pour le tourisme s'annoncent désastreuses. Les locations attendent les clients, tout comme les hôtels. Reportage de Kelly Vargin à Nice pour RMC.
Le soleil est présent, mais les touristes peu nombreux. Les appartements et villas se louent difficilement pour le mois de juillet, affirme Lucienne Julien, agent immobilier à Nice.
Pour l'instant, le mois de juillet est réellement timidement abordé par la clientèle française, qui de toute façon ne vient jamais avant des périodes du 18 juillet. Et cette année, on les a à partir du 25 juillet.
Difficile aussi de prévoir l'arrivée des 65% de touristes étrangers qui viennent habituellement. L'aéroport de Nice fonctionne toujours au ralenti, comme le constate Rudy Sall de l'Office de tourisme métropolitain Nice. Côte d'Azur.
On est quand même dans un service à minima. L'aéroport de Nice, c'est 30 vols par jour aujourd'hui. D'habitude, il y en a 250.
Dans son hôtel, Michel Chan ne compte que 12% de réservations. Il propose des tarifs attractifs pour capter la clientèle française.
30% moins cher que ce que l'on aurait dû avoir dans une saison d'été normale. Et puis, on a des promotions. Cannes l'a initié, mais beaucoup d'hôtels à Nice le font aussi. Du 3 égale 4, c'est-à-dire que vous payez 3 nuits, mais vous restez 4 nuits. C'est aussi pour inciter nos clients à rester plus longtemps sur la Côte d'Azur.
Michel Chan possède deux hôtels. Seul le Splendid Hôtel ouvrira en juillet. Il espère récupérer les clients de son autre hôtel à moindre frais.
L'Europe qui rouvre ses frontières, l'Allemagne qui prend les rênes de l'Union pour 6 mois, lourde tâche prioritaire pour Angela Merkel, convaincre les pays réticents d'adopter le plan de relance économique de 750 milliards d'euros. Le secteur de l'aéronautique va-t-il un jour pouvoir se relever de la crise du coronavirus? Tant qu'il n'y a pas de vaccin, difficile d'imaginer un retour à la normale. Hier, le géant européen de l'aéronautique Airbus a annoncé la suppression de 15 000 postes au niveau mondial, 5 000 en France. Jean-Wilfried Forquès, vous vous trouvez avec Maxime Souniac pour RMC devant l'usine Airbus de Saint-Martin-du-Touche à Toulouse. Les salariés attendent maintenant les modalités de ce plan.
Alors, on a une petite idée de ce plan. Il devrait concerner un tiers des cols bleus. Ce sont des salariés qui travaillent sur ou autour des chaînes de montage. Et deux tiers des cols blancs, ce sont des salariés qui, eux, participent aux fonctions achat, aux fonctions production ou travaillent tout simplement dans les bureaux d'études. Ce plan devrait être annoncé dans les prochaines heures, en tout cas dans le détail. On saura aussi quels sont les sites concernés en France, notamment ici à Toulouse. Ce matin, dans les colonnes de notre confrère La Dépêche du Midi, le président Guillaume Faury explique que les cols bleus sont assez exposés effectivement, mais je le cite, le chômage partiel devrait les protéger en vue d'un redémarrage prochain de l'activité. Une activité qui est en forte baisse, en tout cas ici notamment à Toulouse, depuis le début de la crise sanitaire. Les syndicats nous disent qu'ils vont rester vigilants, ils vont surveiller de très près ce plan social. Ils refusent d'ores et déjà les départs contraints, ce que l'on appelle également les licenciements secs.
Le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Il y a des secteurs qui vont mieux, il faut le souligner. C'est le cas du marché automobile français, perfusé par des mesures de soutien du gouvernement. On observe une hausse de 1,2% sur un an, plus 6,5% pour Renault. En revanche, PSA a vu ses livraisons continuer de baisser, moins 9,1% par rapport à juin 2019. Nous sommes le mercredi 1er juillet. Dans deux jours, c'est le début des grandes vacances. Plusieurs changements à prévoir à partir d'aujourd'hui. Aurélia Manoli.
Pas le changement, l'entrée en vigueur d'un nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée, directement lié à la crise sanitaire. Il permet aux entreprises des secteurs les plus touchés une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu'à 40% en échange de garanties sur l'emploi. Pour favoriser l'emploi également, une aide sera accordée à toutes les entreprises qui embaucheront des apprentis à partir d'aujourd'hui. 8 000 euros pour les majeurs, 5 000 euros pour les mineurs. Les allocations chômage sont également revalorisées de 0,4% pour environ 3 millions de bénéficiaires. Enfin, dernier changement à signaler, le prix de certains paquets de cigarettes va augmenter de 10 centimes environ. La dernière hausse était intervenue en mars, la prochaine aura lieu en novembre.
C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. 55 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour l'aide alimentaire. C'est la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé qui l'a annoncé il y a quelques minutes sur RMC. Christelle Dubos précise que 8 millions de personnes en France auront besoin d'une aide cette année. Depuis le confinement, la situation des plus précaires s'est encore un peu plus dégradée. Les associations n'ont jamais eu autant de demandes. Reportage dans le 20e arrondissement de Paris avec bénévoles et bénéficiaires des Restos du Cœur, Thomas Chupin.
Et hier soir, la chef de la distribution ici, c'était Solène.
Je récapitule. Un sandwich, un yaourt, une banane.
5 bénévoles autour d'elle pour assurer bien plus que d'habitude.
Il nous reste 30 minutes pour faire environ 200 paniers repas. C'est pas mal. D'habitude, on sert environ 60 personnes à dîner le soir.
Et dehors, une longue file d'attente pour récupérer les paniers repas. Beaucoup d'hommes, quelques mères isolées et Massinissa.
Allez-y, monsieur, bon appétit.
Il vient ici depuis 2 mois seulement.
Avant le confinement, je travaillais un petit peu au bâtiment, la livraison. Avec le confinement, c'est zéro, ouais. Je voulais pas et venir ici prendre la part des autres personnes. Mais là, tellement je suis en galère, je viens une fois par semaine.
Jusqu'ici, ce centre des Restos du Cœur a réussi à répondre à la demande.
C'est la première réserve. Vous voyez, il y a les couches, il y a des pommes.
Mais Amine, l'un des responsables, sait bien que les besoins vont être toujours plus importants pour les mois qui viennent.
Sachant que d'habitude, on est fermé au mois de juillet. Et là, exceptionnellement, au mois de juillet, on est ouvert. On sait qu'il y aura de la demande et voilà. Les gens qui ont perdu leur travail, les gens qui étaient en chômage partiel. Et on avait des gens qui ne rentraient pas dans le barème des Restos du Cœur et on les a pris quand même.
Et les Restos du Cœur qui s'inquiètent aussi d'un manque de bénévoles alors que les vacances estivales arrivent.
Une publicité pour une marque néerlandaise de vélo a-t-elle été censurée en France? C'est ce qu'affirme Vanmoof, l'un des plus gros fabricants de vélos électriques au monde. La marque a reçu un courrier de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité pour que son spot soit modifié avant de pouvoir être diffusé à la télévision. Benjamin Pelsi, Florian Chevalet.
Dans cette publicité, une belle voiture de sport, les reflets sur la carrosserie sont sans équivoque, de la fumée noire, des embouteillages monstres et un accident de la route. À la fin du clip, la voiture disparaît pour laisser place à un vélo électrique. Lorsque l'on montre la vidéo à Flavie et Hélène,
excellent, ouais, j'adore.
Les deux parisiennes semblent conquises, peu importe l'image que renvoie la voiture.
On s'en fiche. On voit aussi ce que l'automobile fait et les ravages que ça fait. On voit bien qu'il y a beaucoup trop de voitures qui circulent, alors qu'à vélo, effectivement, ça peut être la solution.
La société à l'origine de la vidéo ne comprend pas cette décision et s'interroge sur l'indépendance de l'autorité de régulation de la publicité. Alpha Claude Jallot, le porte-parole.
On a vraiment le sentiment d'avoir été censuré. On ne se doutait pas que ça allait prendre autant de proportions.
Problème, sans cet avis favorable, le clip a très peu de chances de se retrouver à la télévision. Stéphane Martin est le directeur général de l'autorité de régulation de la publicité.
En France, le dénigrement n'est pas acceptable, et notamment en surfant sur un caractère anxiogène.
Malgré cet avis défavorable, la société a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne changerait rien à sa publicité.
C'est un drame qui fascine depuis la nuit des temps, l'éruption du Vésuve engloutissant Pompéi. Nous vous emmenons ce matin dans les coulisses de l'exposition événement qui débute aujourd'hui au Grand Palais à Paris. Pompéi, comme si vous y étiez en 3 dimensions. Marion Fournet.
Tous les quarts d'heure, les murs du Grand Palais tremblent dans un vacarme assourdissant. Grâce à un dispositif numérique impressionnant, le Vésuve entre en éruption sur grand écran. En 3D, une nuée de cendres noires s'abat sur Pompéi. Roy Amit, directeur du numérique.
Cette éruption est vraiment condensée. Dans l'exposition, on les découvre en 1 minute et demie. Dans la réalité, ça a duré en fait 2 jours. Mais du coup, le public peuvent avoir un aperçu, en tout cas, de ce qui est une éruption.
L'exposition se décline en 3 parties, l'avant, le pendant et l'après-catastrophe. Le visiteur peut ainsi déambuler dans les rues de la cité antique, un parcours immersif et une reconstitution fidèle grâce aux avancées technologiques et aux dernières fouilles.
Quand on balade dans la rue des Pompéi, on balade avec donc des silhouettes des Pompéiens et des Pompéiennes. Ça, c'est dans les côtés antiques et dans les côtés contemporains. On balade avec des archéologues. Cette exposition alterne des moments donc des émotions, des impressions, mais aussi des moments des connaissances. On apprend beaucoup de choses.
Statues, vases, de nombreux objets rares sont exposés. À voir aussi des moulages d'humains et d'animaux retrouvés recroquevillés, recouverts de cendres. De quoi en apprendre un peu plus sur l'une des catastrophes les plus fascinantes de l'histoire.
Et il faut évidemment réserver un créneau horaire précis pour se rendre à cette exposition.